CFM Villefranche, le MAG.
Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bon début de semaine, le MAG Aveyron du lundi, santé, bien-être, fleurette, pâquerette et assiette. Avec vous Karine Weck-Justeau, bonjour Karine.
Bonjour David, quelle entrée ce matin.
Nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût, faut que je vous dise la vérité, j'ai coupé du bois tout le week-end, je suis à fond. C'est parfait pour attaquer ce menu qui va nous rassasier, puisque premier lundi du mois, c'est menu.
Voilà, c'est habituel.
C'est habituel. Et c'est Didier Valette qui interviendra tout à l'heure. Didier Valette, sommité fleurie de la biodynamie et spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. On poursuit notre exploration de cette technique agricole, la biodynamie, avec une plante aujourd'hui. J'ai peur de dire une bêtise, je ne vais pas me prononcer. Je vais laisser faire Didier tout à l'heure. Après la musique, pour l'instant, c'est menu. Menu qui commence traditionnellement par un petit déj, non ?
Voilà, hein, je rappelle pour le petit déjeuner, puisque vous m'en donnez l'occasion, que tout le monde n'a pas envie de déjeuner. Il est néanmoins intéressant d'essayer de rompre le jeûne juste, même si ça n'est qu'un petit truc, mais de ne pas rester sur l'énergie qu'on a apportée à notre organisme le soir, parce que ça ferait trop long d'attendre le repas du midi et on risque les phénomènes de stockage. Voilà, donc un petit déjeuner. Ne râlez pas, David, en cours de rubrique. Hein, c'est le dîner, je pense, vous plaira le plus. D'accord ?
Donc, c'est pas exactement ce que vous m'avez dit avant de rentrer dans les studios.
Si, je vous l'ai dit.
Ah bon, d'accord.
Alors, le petit déjeuner, donc, je vous propose un fruit, mais un fruit qui a la particularité d'avoir un peu d'amidon, et notamment s'il n'est pas très mûr. De quoi est-ce que j'ai envie de parler, d'après vous ?
La banane, madame.
Exactement, la banane. Depuis qu'on fait des rubriques, je vois que vous progressez en nutrition. Donc, je vous propose une banane pour, effectivement, pas s'alourdir, mais quand même avoir la matinée tranquille pour pouvoir assumer nos différentes activités. Mmh. Et puis, pour ceux qui ont envie, on pourrait imaginer rajouter de petits fruits oléagineux. Hein, on en a, surtout dans nos régions, des noix, des noisettes en ce moment.
Mmh. Des amandes.
Des amandes, voilà.
Plantées dans un petit cabécou, comme ça, ça fait une petite couronne et hop, comme
alors,
ça.
Alors non, pas de produits laitiers au petit déjeuner. Vous verrez
celui-là.
En
d'accord.
Fin de repas pourquoi je vous dis ça, en fin de journée, je veux dire.
Mmh.
Les petits fruits oléagineux donc, vont plutôt être composés de gras. Hein, donc avec l'amidon de la banane, bien ça va nous amener une certaine satiété pour traverser cette matinée.
On peut même écraser la banane avec ces fruits oléagineux sur une petite purée comme ça.
Tout à fait, ça peut être très bien. On peut aussi réduire les oléagineux, vous savez, un petit peu en poudre grossière là, hein, et effectivement parsemer cette purée de banane. Voilà.
Ah, okay.
Alors je suis quand même étonnamment.
J'ai rien dit de plus, mais bon, un petit café. Bon,
je ne dis rien de plus non plus. Alors, donc passons au déjeuner. Donc c'est là peut-être où vous allez râler un peu. Donc le déjeuner, vous allez voir, est quand même un déjeuner plutôt léger en prévision du dîner. Hein, vous savez que quand on peut anticiper les choses, j'aime bien cette idée de vase communicant.
J'ai un dîner
un petit peu plus lourd, donc je vais quand même faire attention sur le dîner du midi, comme si j'allais économiser en fait pour pouvoir utiliser le soir. Alors, pour ce déjeuner, donc, je vous propose, puisqu'on en avait fait la rubrique il y a 15 jours déjà, une petite salade de champignons de Paris. D'accord,
oui,
donc qu'on citronne, sur laquelle on met un petit peu de persil, il y a beaucoup de vitamine C, c'est un peu dynamisant. Et puis comme on disait la semaine dernière, il y a 15 jours...
Un peu tiède, chaud de la salade ou
non, si vous voulez, mais on peut la manger crue. Le fait de mastiquer va être très important pour toujours cette histoire de satiété. Plus on va mastiquer, en théorie, moins on va manger vite, puisqu'on prend du temps mécanique. Et donc du coup, on fera une meilleure digestion, on va peut-être manger... moins en quantité aussi, et petit à petit dans le temps, on va travailler sur notre satiété. D'accord ? Donc une petite salade de champignons de Paris avec de l'ail ou du persil ou comme vous voulez. Le persil contient beaucoup, beaucoup de vitamine C, donc c'est intéressant à cette saison-là. Et puis sur le plat principal, je vous propose, toujours pour travailler sur cette satiété, juste des crevettes, vous savez, des crevettes juste cuites comme ça, qu'on passe du temps en fait à décortiquer. Donc là, ça allonge aussi le temps du repas. D'accord,
super.
Ben oui, mais c'est un peu ce que je cherche, hein, en fait. Si on mange sous
vous voulez pas rajouter des écrevisses du lac de Parlou ?
Et pourquoi pas ?
Ouais.
Mais c'est plutôt l'été les écrevisses quand même. Donc ces crevettes en fait, on va les accompagner de petits pois carottes. Et là encore, j'ai choisi volontairement ce petit pois qui est un féculent, mais qui est un féculent, vous savez, plutôt parmi les plus léger. Hein, c'est un peu comme la banane, d'accord ? Hein, donc vous voyez que là, j'ai choisi des aliments volontairement.
Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause.
Possible.
C'est pour la raclette du soir.
Eh bien, comment l'avez-vous deviné ?
Mais je ne sais pas. C'est quand même la raclette.
Allez, ouais, là, voilà, un début décembre, ça peut le faire.
Même avant. Hein.
Et puis quand même.
La raclette, c'est bon toute l'année.
Oui, c'est vrai. Et pour finir ce déjeuner, et pour s'hydrater un peu, et pour le compléter, vous vous en doutez, puisqu'il y a raclette ce soir, je ne mets pas de laitage à midi, d'accord ? En revanche, je mets celle que vous aimez bien, jolie jolie, la petite salade de fruits de saison, avec des agrumes, etc.
Oh, là, c'est exagéré,
mais
là, jusqu'au
bout. Si vous pouvez mettre un petit peu de cannelle pour parfumer, ça fait esprit dessert sans être quelque chose de trop lourd.
Bon, c'est le menu, vite, 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 c'est juste pour remplir le bol alimentaire.
Voilà, et puis pour amener de l'énergie quand même nécessaire, parce que le dîner est encore loin, donc pour amener l'énergie nécessaire à notre corps pour toute l'après-midi. Et effectivement, ce soir, effectivement, nous allons faire une raclette.
Ah là oui.
Là, cette saison à laquelle on est, la raclette, c'est toujours source de culpabilité chez mes patients.
Vous pouvez leur dire, David, il a dit, faut pas.
Karine, elle dit qu'on peut. Mais on peut aussi envisager de faire une raclette qui soit finalement un petit peu moins lourde. Déjà, on peut éventuellement envisager de se caler l'estomac avec une soupe où on aurait mis que des légumes et pas de pommes de terre.
Ah mais non, mais pas de blague, Karine, ça va.
Et pourquoi pas de blague ?
Non, mais...
C'est très sympa, un petit consommé. Vous pouvez même les servir en petite verrine pour l'apéro, par exemple.
Oui, mais il faut vraiment laisser un max de place quand même pour la raclette.
Ben non, pas forcément, justement. Voyons, elles ne zonnent pas de la même manière.
Ah oui, non, ça...
Et puis, outre la charcuterie que l'on peut choisir avec du bacon, avec du jambon blanc, qui seront des choses quand même peut-être un petit peu moins riches en gras, on peut aussi jouer sur l'apport des pommes de terre en proposant tout ou partie d'autres choses, d'autres alternatives. On peut proposer des butternuts, par exemple, ou des potirons qu'on aurait fait cuire au four. Pourquoi pas des petits champignons ?
Bien sûr.
Le
bien
tout sûr. Accompagné d'une salade verte. Vous voyez, il y a moyen quand même de faire quelque chose qui soit suffisamment volumineux, qui soit suffisamment long à manger, parce que c'est ça aussi qu'on recherche dans la raclette. Hein. C'est un petit repas qui dure et pendant lequel on peut
s'arrêter.
Discuter.
On s'arrête quand il n'y a plus de fromage, c'est pas compliqué. Et même, on est en capacité d'aller chercher, même le camembert, il passe quand vraiment on est au bout du bout.
Quand on est au bout du bout, ça peut. Et puis, j'ai envie de dire, eh bien, tant pis, on rattrapera après, si on n'a pas pu anticiper dans ces cas-là.
Ouais,
Et quand on s'est bien régalé de tout ça, eh bien écoutez, ça ferait peut-être un petit peu trop de sortir une vraie pâtisserie, en tous les cas. Hein. Donc on peut imaginer sortir un sorbet ou une glace aux fruits, ou vous voyez, quelque chose qui va, à l'inverse, faire couler un petit peu. Voilà, donc au final, on a mangé une raclette, mais comme on a anticipé et que sur le reste de la journée, on a pris bien soin de choisir parmi les moins riches dans toutes les familles d'aliments, ben, somme toute, c'est mon histoire de vase communicant et ça reste un petit plus peut-être, mais un petit plus qu'on peut tout à fait intégrer dans une alimentation équilibrée.
Oui, et puis on peut vraiment faire la bonne raclette sans concession, avec tout ce qui va bien et pas trop se poser de questions, parce que c'est un instant vraiment joyeux, de plaisir, de partage, la raclette obligatoirement.
On peut. Et demain, on va courir.
Oui, on va couper du bois demain.
Voilà.
Un repas du plutôt de fin de semaine, du week-end. En semaine, c'est plus...
C'est chacun qui le gère.
C'est toute la semaine. De toute façon, quand il en reste, le lendemain, on y retourne. Parce qu'il y a toujours des patates qui traînent.
Vous savez que vous pouvez congeler le fromage à raclette.
Oui, mais bon, c'est des manipulations pour rien. Le plat est là, donc on s'en servir. Et ben voilà, le menu de ce mois de décembre, en demi-teinte, ce menu que l'on retrouve en podcast sur le site cfmradio.fr. Vous savez de quoi vous nous parlez la semaine prochaine. On arrive presque à la fin de l'année, là encore.
Et bien, nous verrons bien.
Ah bon, d'accord, ok, on fait comme ça. Merci Karine, excellente journée et à la semaine prochaine. La suite du programme, un peu de musique et j'attends et j'accueille Didier Valette, sommité fleurie de la biodynamie. On poursuit notre exploration de la biodynamie avec une plante aujourd'hui, je crois savoir. C'est après la musique.
We walked for hours in winter's arms. Broke your ankle, you fell with pride. You sent me a picture on which you cried. It's hard not to answer I'll give a try. I'm selfish and jealous. Is that a crime? I'm selfish and jealous. The pleasure is mine. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. We'll spend life together, just we.
CFM Villefranche, le mag.
Allez, vous venez nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Didier Valette. Bonjour Didier Valette.
Bonjour David et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Didier Valette, sommité fleurie, comme je vais prendre l'habitude de dire, de la biodynamie et puis spécialiste aussi sur notre territoire des plantes aromatiques et médicinales. On a fait une pré-introduction de l'introduction de l'introduction à la biodynamie. C'était important aussi de bien planter le décor parce que c'est beaucoup de notions qui peuvent nous échapper sur le regard qu'on peut avoir sur cette pratique agricole. Je vous ai la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans ces studios lancé sur le pissenlit parce que c'est peut-être la plante que je maîtrise, enfin je sais reconnaître le mieux des plantes qu'on utilise dans la préparation à la biodynamie. Grave erreur, il y a un ordre aux choses et on va reprendre l'ordre des choses aussi avec la présentation des plantes, leur personnalité, leurs vertus, leurs bienfaits et leur profil. C'est, je crois savoir, l'objet de votre intervention aujourd'hui autour de l'achillée millefeuille.
Oui, donc on va parler, j'ai décidé un peu de vous parler des plantes qu'on utilise pour faire des préparations biodynamiques, donc pour mettre dans le compost. Ces plantes, ce sont toutes des plantes médicinales, elles sont au nombre de 6, donc j'en avais déjà parlé. Il y a l'achillée millefeuille, la matricaire camomille, l'ortie, l'écorce de chêne, le pissenlit et la valériane. Donc ce sont toutes des plantes pas du tout rares, des plantes très, très usuelles, quelquefois même qu'on appelle des mauvaises herbes. Parce que ben je ne sais pas pourquoi on ne les aime pas. Bon, l'ortie, ça pique, mais, mais à part ça, ce n'est pas vraiment mauvais.
Elles sont ou comestibles, ou médicinales, ou bio-indicatrices. Donc, voilà, en tout cas, elles ont obligatoirement une fonction.
Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que quelquefois, ce sont des plantes qui sont indésirables parce qu'elles peuvent nous envahir dans le jardin, elles peuvent nous gêner à certains endroits. Mais quand on leur redonne une place, quelque part, elles sont très, très utiles. Donc, l'achillée millefeuille, c'est une plante très commune, mais très peu connue. Alors le pissenlit, tout le monde la connaît parce qu'il y a des fleurs qui sont jaunes de pissenlit souvent et puis quand on est enfant, on aime bien jouer avec les graines de pissenlit et ainsi de suite. L'ortie, tout le monde le connaît aussi parce que ça pique. Donc il nous rappelle sa présence. L'achillée millefeuille, elle ne nous rappelle pas du tout sa présence. Il n'y a que quelques fois, quand on marche dessus, qu'il y a une odeur, mais ce n'est pas comme une odeur de menthe non plus. C'est une odeur aromatique, mais qui n'est pas très, forcément très, très agréable. Donc, c'est une plante qu'on va trouver sur les bords de chemin, dans des friches, dans des prairies. Et c'est une plante qu'on utilise au niveau médicinal depuis très, très longtemps. Les Grecs l'utilisaient, les Celtes l'utilisaient. Ça fait partie de beaucoup de traditions au niveau de nos civilisations, au moins européennes en tout cas. Hein. D'abord, le nom Achillée, ça vient de Achille, le héros grec, parce que lui, il ne se soignait pas avec, parce qu'il était invincible. Il n'y avait qu'un petit endroit de son talon où il pouvait être blessé, puisque quand il avait été trempé dans le bain de ne pas pouvoir être blessé, il y avait une feuille qui s'était posée sur son talon, et à cet endroit-là, il pouvait être tué quelque part. Mais par contre, il utilisait l'Achillée pour soigner les blessés, il a soigné un roi, voilà. Donc, ça vient, le nom Achillée vient du héros grec Achille, qu'il utilisait, c'était un guerrier, mais c'était un soigneur aussi, quelque part. Souvent, les guerriers étaient en même temps chamans. Donc, voilà. Alors après, on l'appelle aussi l'herbe aux coupures, l'herbe aux militaires, l'herbe aux charpentiers, parce que, voilà, tout ça, ça veut dire qu'elle est très cicatrisante. C'est une plante hémostatique, c'est-à-dire qui empêche le sang de couler, et cicatrisante en même temps. Moi-même, j'en ai pris souvent, j'en ai fait l'expérience, parce qu'en ramassant des plantes, souvent, avec des sécateurs, et quand j'étais dans des endroits un peu isolés, en récolte sauvage, il m'arrivait de me donner un coup de sécateur sur un doigt et de me blesser. Immédiatement, je pouvais trouver de l'Achillée millefeuille à côté, je me faisais un simplement avec les feuilles un peu froissées et faire un pansement autour du doigt avec ces feuilles-là. 2-3 minutes après, le sang avait arrêté de couler. Quelque part, c'est vraiment fantastique.
C'est
comme plante.
Magique, la nature. Vous ne nous avez pas encore dit, alors on sait d'où elle vient, à peu près pour l'instant, je vous ai coupé, mais quelle pourrait en être son utilité? À quoi elle ressemble, l'Achillée millefeuille?
Alors, à quoi elle ressemble? Donc, justement, elle est assez discrète. Déjà des feuilles qui sont tout en bas de la plante, des feuilles très très découpées, c'est pour ça que ça s'appelle millefeuille, parce qu'on a l'impression que ce sont plein de petites feuilles, mais c'est une feuille qui est tellement découpée que ça fait plein de petites folioles, un peu comme une plume. Comme une plume d'oiseau avec une nervure centrale et plein de petites plumettes qui tiennent là-dessus. Donc voilà un petit peu déjà sa particularité.
Pas de tige, hein, tout est au ras du sol.
Les feuilles sont pratiquement au ras du sol, et ensuite il y a une grande tige qui va pousser à partir du ras du sol, où il va y avoir encore quelques feuilles par-dessus, mais c'est une tige qui va pouvoir faire 60 à 80 cm de haut.
Ah très, oui, on repère alors.
Oui, ouais. Très solide, et un bouquet de fleurs qui pourrait ressembler un peu à une ombelle comme la carotte. Bon, c'est difficile de décrire les plantes. J'espère que ceux qui nous écoutent connaissent un petit peu les plantes.
Didier, il y a des outils pour rechercher aujourd'hui.
Autrement, je les inviterai pour le printemps à venir faire des stages de botanique qu'on va organiser au Majam. Donc voilà,
c'est parfait.
On pourra rappeler ça. Donc cette grande tige va se terminer par un bouquet de fleurs qui pourrait ressembler un peu à une ombelle, c'est-à-dire plein de petites fleurs qui seraient un peu au même niveau, mais l'ombelle, toutes les tiges de ces fleurs sont rattachées au même endroit, ça fait un peu, comment dire, comme un parachute. Mais un parachute à l'envers, disons, avec toutes les tiges qui reviennent au même endroit, alors que dans le millefeuille, les tiges ne sont pas rattachées au même endroit, quelque part. Donc ça fait, elles sont à peu près, les fleurs par elles-mêmes sont à peu près au même niveau, mais pas, elles sont pas prises au même endroit sur la tige. Et cette fleur appartient à la famille des composées, c'est-à-dire ce sont des petites fleurs, toutes petites, qui sont composées de deux sortes de fleurs, des fleurs en forme de pétales et des fleurs en forme de tubes au centre, comme la marguerite, hein, sur le principe d'un marguerite où il y a un cœur. Dans la marguerite, c'est un cœur jaune et des pétales blancs. Là, c'est un cœur un peu ivoire et des pétales blancs autour. La couleur peut varier un petit peu. Alors, si dans les jardineries, vous allez en trouver de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, mais celles-là, elles ont été travaillées au niveau de...
La génétique.
De la génétique pour faire toutes les couleurs. Par contre, on peut trouver des fleurs roses et violettes plutôt en montagne. Sur l'Aubrac, on trouve en sauvage des fleurs roses ou violettes. Donc, on va parler de ses propriétés, peut-être.
Ah oui, s'il vous plaît.
Alors, oui, déjà, elle est très en rapport avec le sang. Donc on en a déjà parlé un petit peu, elle est hémostatique, donc en usage externe, en usage interne aussi. Et elle est très en rapport avec les pathologies féminines aussi. C'est, alors bon, on peut dire comme ça, mais on ne va pas s'attarder dessus, c'est une plante qui est en relation avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est en relation avec le côté féminin. Mmh. Et Mars avec le côté masculin, si on veut. Donc, par exemple, elle soigne tout ce qui est aménorrhée, donc des règles chez les femmes qui ont du retard, par exemple, ou trop abondante, voilà, elle rééquilibre. Elle va rééquilibrer au niveau aménorrhée, au niveau des règles douloureuses aussi. Pour, alors, il y a différentes plantes pour les règles douloureuses, ça dépend. Hein, on ne peut pas dire ça va marcher pour telle femme.
On est tous
peut-être
différents.
Peut-être que, voilà, chaque personne est différente. Mais ça marche bien. Et puis, il y a deux, trois plantes, par exemple, qui sont très bien pour les règles douloureuses. Et si on les prend en mélange, on est à peu près sûr de tomber bien, quelque part. Donc, voilà un petit peu. Cette plante aussi, elle est là pour contrôler tout ce qui est trop d'émotions dans l'organisme, quelque part. C'est-à-dire les gens qui ont tendance à s'envoler un petit peu dans les émotions, hein, qui se mettent à pleurer très facilement ou à rigoler très facilement. C'est-à-dire, voilà, toujours ce côté équilibre au niveau du troisième corps dont je vous ai parlé. Là, il y avait le corps de vie et puis le corps des émotions. Donc, essayer de le rendre à peu près stable. Donc, c'est le côté vénusien, puisque le côté vénusien, c'est vraiment le côté harmonie, équilibre, voilà. Après, ce qu'on peut dire, c'est une plante... Pour comparer, c'est bien de pouvoir comparer les plantes, parce qu'elles ont chacun un geste différent. Quand on parlait du pissenlit l'autre fois, le pissenlit, il éclate d'un coup quelque part. Il se met à fleurir du jour au lendemain et les champs sont tout jaunes et puis ça s'arrête aussi vite que c'est arrivé. On est dans quelque chose de plus martien, plus masculin, c'est-à-dire d'action violente, rapide. Le côté féminin de l'Achillée, c'est au contraire de prendre son temps, de faire laisser mûrir les choses. On n'est pas pressé comme dans le côté masculin. Donc l'Achillée, elle va mettre très très longtemps pour arriver à la floraison. Déjà, elle va faire une grande tige qui va monter jusqu'à... qui part avec le bouton floral qui est là dès que la tige fait quelques centimètres de haut. Mais la tige va monter, le bouclier floral va être encore là et puis petit à petit va mûrir pour amener à une fleur. Mais ça va prendre peut-être 2 mois. Et ensuite, la fleur, elle met longtemps à mûrir par elle-même et elle peut durer, on a à peu près 1 mois pour ramasser la fleur, parce qu'elle ne fane pas. Et on peut même la mettre à sécher, l'utiliser en fleur sèche, en bouquet de fleur sèche, quelque part. Donc voilà, c'est ce dans l'organisme, elle va apporter un peu la même chose, temporiser toute l'exubérance qu'il peut y avoir. Donc, ramener ça dans des limites plus posées, plus prendre le temps, voilà.
C'est de la poésie, hein, quand on vous entend, Didier Vallet, pour rappeler si vous venez de nous rejoindre. Il y aurait encore beaucoup à dire, notamment la préparation, la période aussi à laquelle on peut trouver et l'observer, cette Achillée millefeuille.
Oui.
Mais je vois le chrono en même temps. Allez, dites-nous, parce que
Bon, alors, simplement, très rapidement, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Je vous ai dit qu'elle mettait beaucoup de temps à arriver, mais elle n'arrive pas à l'automne. Elle arrive vers la Saint-Jean, quelque part. Hein, fin juin, ça dépend des régions, on va la trouver sur l'Aubrac, dès qu'on monte en altitude, on a facilement 1 mois de décalage, donc on va la trouver dans fin juillet sur l'Aubrac, mais vers chez nous, c'est en juin. Hein. C'est au moment des foins, à peu près, quand même. Voilà, donc, mais c'est préparé longtemps parce que pour arriver à ça. Elle part pratiquement en même temps que le pissenlit, mais le pissenlit, il fleurit 3 mois avant.
Voilà, ce qu'on peut retenir, l'Achillée millefeuille, c'est la plante pour les femmes guerrières, voilà, pour Achille et pour son côté aussi vénusien, pour résumer et ponctuer cette intervention. C'est toujours frustrant, on aimerait passer encore plus de temps avec vous, Didier Valette. C'est pour ça qu'on va se donner rendez-vous sous peu, d'ici deux semaines, sur l'antenne, après l'Aquilée Millefeuille. Si vous avez un petit complément à apporter, bah, ça sera parfait. Mais ça serait donc la camomille matricaire,
oui,
c'est ça ?
Totalement.
Ah, je commence à retenir deux, trois bricoles, j'aime ça. Merci Didier Valette, excellente journée, bonne semaine et à très bientôt dans les studios.
Bientôt.
Dans deux semaines.
Au revoir.
CFM Villefranche, le mag.